J'héberge trois tribus Maasai sous mon lit, dont les mioches ont appris à fondre sur Paris. À l'arrivée des beaux jours pour fêter le printemps, aux premières manifs d'étudiants j'accours. Méfiez-vous de mes enfants, on les a exclus du ciel. Et comme les anges, les démons ont des ailes.
Je suis une bande ethnique à moi tout seul, c'est écrit sur ma gueule. Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon, est-ce que le compte est bon?
Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Putain, c'est écrit sur ma gueule. Un cordon sanitaire dressé autour de mon CV. Et ouais, y'a de quoi s'énerver.
Y'a de quoi s'énerver.
À moi tout seul, je suis une bande ethnique. Égorgeur de bêtes à poils laineux, la lame passée au feu. Sale tic a juré à tout bout de champ. Pour des broutilles ou sur l'honneur de ses parents. Nom, prénom, claque, au fond de la gorge. De sorte que la BAC t'aime à bras le corps. Alors, qu'elle orne sur le coffre les tracts qui traînent. Manif contre le maire d'un malin vide la haine. Je ramène toute ma culture de gâteau repeux. A la hit, vas-y partage, fais pas le var creux. Et le cheveu, harash qui affole la signalétique. Affiche ma bande ethnique.
Toujours ce regard aussi noir que méfiant, hein. Non pas du genre fuyant, mais plutôt horrifiant. J'ai ses doigts, ses mains qui marchandent. Je traîne, qui baffe, mais jamais ne demande. Sans compter cette grande gueule, je suis bon qu'à jacter. Brailler, brailler, insulter, becter. Ses pieds qui ont couvert de la distance. Obligé de courir encore plus vite que les flics. Je pense avoir ce cocktail du parfait Morico. Pour m'écarter des clichés tropicaux. Banania, oui, buana, c'est comme ils veulent, hein. Je suis une bande ethnique à moi tout seul.
Je crois que l'un des meilleurs exemples qu'on peut illustrer, là, si on revient sur Paris et le cas qu'on connaît, c'est que dès qu'il va y avoir un mouvement revendicatif, dès qu'il va y avoir une volonté des Maghrébins de France, par exemple, de sortir du cercle dans lequel ils sont, c'est-à-dire mis en marginalité dans les villes, par exemple avec les bidonvilles de Nanterre, ou vivant dans des gourbis ou dans des petits hôtels, et quand ils vont revendiquer, notamment à partir des années 50, puisque là, leur présence devient en nombre relativement abondante, l'immigration entre 45 et 53 se chiffre en centaines de milliers de migrants et de travailleurs qui sont appelés pour les 30 Glorieuses, pour l'effort de reconstruction du pays.
On a besoin de bras.
On a besoin de bras et on va les chercher en Afrique du Nord à ce moment-là. La guerre d'Algérie n'a pas démarré. On ne peut plus fonctionner avec deux systèmes, avec deux citoyennetés à deux vitesses. Ça n'est plus possible. Le système est en train de se fissurer totalement et la guerre d'Algérie va être l'expression la plus visible de ça dans Paris parce que n'oublions pas d'abord le conflit avec MENA et FLN dans Paris qui a été quand même meurtrier.
Parce qu'il y a eu la guerre entre les différents mouvements indépendantistes.
Et Paris a été un des lieux de ce conflit, mais là aussi ça chiffre en centaines de morts. C'est vraiment une guerre. Qui va mourir l'OAS, que tout le monde connaît, vraiment cette petite fille défigurée, on a remis, ça a vraiment été un choc dans la ville. Cette guerre va devenir bruyante, les manifestations vont s'entendre dans Paris, petit à petit, la violence coloniale, au moment, va éclater dans Paris. Je dirais que ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ces millions de Français qui étaient à 2000 km de l'Algérie. Bien sûr, le père, l'oncle, le frère, le voisin y était. Donc on entendait parler de cette guerre. Vous savez comme moi la grande difficulté de ceux qui ont fait l'Algérie d'en parler, à l'époque comme par la suite. Donc d'une certaine manière, la manière à laquelle les Français ont perçu cette histoire, ils l'ont perçu dans leur rue, dans leur quartier, en voyant monter cette violence coloniale. Et à un moment, ils l'ont vu exploser. Et l'année 61, c'est ni plus ni moins que l'explosion de ce qui était là-bas une pratique normale, dans la capitale de France. Et là, d'un seul coup, pendant quelques jours, plusieurs mois, puisqu'on sait que les événements du 7 octobre ont commencé un peu avant, vont se prolonger dans les mois qui suivent, il va y avoir sous Papon d'abord une interdiction de circulation dans la ville des Maghrébins, puis de plus en plus une pression sur Nanterre comme sur les quartiers où ils vivaient, pour se terminer par un bain de sang, où de cette manière on va lâcher la violence coloniale dans la ville.
Octobre 61, Maurice Papon, préfet de police de Paris, impose le couvre-feu à la population algérienne. Pour protester contre cette mesure d'exception, le FLN appelle à manifester. Le 17 octobre, 30 000 Algériens et leurs familles se rassemblent à Paris. En face, 10 000 hommes chargés de disperser la manifestation interdite. La répression policière sera impitoyable. Bilan officiel, 2 morts et 64 blessés. Pour le FLN, il y a plus de 200 tués. Maurice Papon a parlé d'une vingtaine de victimes, des dissidents qui auraient été assassinés par des commandos du FLN.
C'est une contre-vérité historique flagrante. Il faut aussi quand même tenir compte de la parole des témoins et des acteurs, ce que Maurice Papon, évidemment, oublie absolument de mentionner dans ses interventions, c'est-à-dire qu'une espèce de négation du fait historique sur le 17 octobre 61.
Avocat du FLN pendant la guerre d'Algérie, Maître Oussédic va plus loin. Maurice Papon, en 61, ce serait une répétition de l'histoire.
On lui a imparti une mission bien précise, celle de casser le FLN dans la région parisienne. Et il a mis en place des méthodes qu'il avait certainement dû utiliser